Bonjour. Donc on va commencer par cette croisée des chantiers. On va commencer avec Phil Gonin et avec Nicolas Lahaye. Donc Philippe Gonin qui est maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Tu me dis hein, si je dis
oui,
des bêtises.
Là,
tes travaux qui portent sur les processus de création et l'analyse des musiques rock. Tu as publié des ouvrages sur Pink Floyd, Robert Wyatt, Magma, The Cure. Et tu prépares un livre qui est consacré à Marquis de Sade.
C'est exact.
Qui est en passe d'être publié.
Oui.
Voilà.
Enfin, faudrait que je finisse de l'écrire et puis après il sera publié.
D'accord, ok. T'écoutes.
Bien, merci. Donc, si j'ai bien compris, ce qui m'a été demandé pour cette séance-là, c'est de faire un bilan d'une année. Moi, ça fait un an que je suis dans l'équipe, puisque la première fois où je suis venu, c'était justement quand il y a eu un bœuf l'année dernière ici. Et donc, la question qui se pose et qui s'est posée dans la plupart de mes interventions, c'était punk et post-punk, est-ce qu'il y avait une esthétique cohérente dans tous ces groupes en France, parmi tout cela? Et la plupart du temps, quand je commençais à faire mon intervention, je disais ce groupe-là, il n'est pas punk. Donc j'avais commencé par Marquis de Sade. Ensuite, j'avais continué avec les Dogs, qui ne sont pas franchement punk non plus. Ensuite, Casse Product. Là, c'est peut-être le seul où j'avais commencé en disant ceux-là, ils sont peut-être plus punk pour des raisons diverses et variées. Je ne vais pas revenir, tout ça est sur le site. Star Shooter, qui eux étaient peut-être les plus punk du lot finalement, quoique très rock'n'roll, je l'en avais aussi un petit peu parlé, quelque part, avec cet amour pour Eddie Cochran, etc., qui peut être aussi une marque des punks que de revenir au rock plutôt originel. Je parle des punks des années 75-78, hein. Après le rock alternatif, c'est un petit peu autre chose. Et tout ça va se poursuivre, j'en profite, parce que la prochaine séance, c'est à Nantes, mais il y en a une après à Bordeaux, où là, je parlerai d'un groupe punk bordelais, Strychnine, et en particulier de son premier album. Je crois qu'il y aura des gens de ce Strychnine-là, puisqu'on a des gens du Strychnine actuel, notamment Luc, qui joue avec dans la salle, qui seront ici. Et je vais parler de cet album-là, qui est à la fois dans la lignée de ce que j'ai déjà dit, et aussi quelque chose un peu punk, mais je ne vais pas anticiper. Ce qui est intéressant chez Pind, enfin je crois que les gens disent Pind, mais moi je dis Pind, je trouve ça plus rigolo, c'est aussi ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut être sur scène, comme on le sera ce soir, pour faire un petit peu des concerts. Là, c'était à Lyon, c'était le concert de Lyon qui était le tribute Star Shooter, plus ou moins. J'étais bien content parce qu'il y avait mon fils qui jouait avec moi. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette affaire-là aussi, c'est tout le côté... comme dirait Rock et Folk, les survivants qui sont là. Alors parfois ils sont vraiment survivants, parfois ils sont tout simplement vivants, ce qui est déjà pas mal. Et puis aussi les revenants. Lorsque j'ai parlé de Marquis de Sade en décembre dernier, ils venaient tout juste de refaire un concert où ils avaient juré leur grand Dieu qu'il n'y en aurait qu'un seul. Et depuis ils ont fait une tournée avec une dizaine de dates. Et peut-être que ça va continuer. Parfois on entend parler de nouveaux albums. Et pour le coup, je vais faire un petit peu de pub pour moi, c'est que lorsque j'ai parlé à Lyon des groupes lyonnais, j'ai évidemment parlé du mien, hein, parce qu'on parle bien de soi-même aussi, même si on ne dit pas toujours la vérité. Et pour le coup, ce groupe, alors là, c'est une image d'il y a 35 ans, hein, alors je suis là, hein, je le dis pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas. On faisait aussi des séances photos hein, avec des photographes qui essayaient de nous prendre... alors c'est assez curieux, parce qu'il y a juste un truc, moi je vois une tache juste au niveau de la moustache, mais j'en ai pas. Et il est fort probable qu'on se reforme et qu'on fasse un ou deux concerts en 2019, donc 35 ans après. Et en fait, se reformer, non, parce qu'on s'est arrêté de fait. On est parti à l'armée, on n'a pas pu y échapper. Et on ne s'est jamais séparé. Donc finalement, juste on se retrouve des années après. Donc le punk en France, qu'est-ce que c'est? Ça, c'était la couverture du Rock et Folk qui est sortie il y a un ou deux ans, avec Les survivants racontent. Et ces survivants racontent, ça nous permet à nous aussi, chercheurs, ou en tout cas moi, d'essayer de rencontrer à chaque fois des gens. Lorsque j'ai fait l'intervention sur Marquis de Sade, j'ai eu en contact les gens de Marquis de Sade. Lorsque j'ai fait Casse Product, j'ai parlé à Dance et j'ai parlé aussi à Mona. Lorsque j'ai fait Star Shooter, j'ai parlé à Kent et aussi, mais là c'est un peu hélas, à Philippe Danière, le batteur, qui lui a tendance à avoir des pensées, comment dirais-je... qui était un peu combattu dans un morceau qui s'appelle Porcherie, par exemple, pour ne pas citer le groupe qui va avec, et qui est très très facho, islamophobe, etc., qui se revendique comme tel, donc j'ai un peu arrêté de fréquenter ce monsieur-là. Mais Kent m'a dit des choses exactement sur la création dans Star Shooter, et parfois on se retrouve confronté, comme je l'ai été à Nantes, à la personne dont on parle, assise en face de soi, et qui se permet, puisque là la photo qui est dessous, je crois, la photo a été prise au moment où Philippe Pascal, alors que j'intervenais, me lève la main et dit « Est-ce que je peux intervenir ?» Ce qui est toujours un peu risqué, parce qu'on se dit « Putain, j'ai dit une connerie, et je vais m'en prendre plein la figure. » Pas du tout, il est juste venu, on reconnaît qu'il y a certaines personnes dans la salle derrière lui, il était juste venu préciser quelque chose que j'avais pu dire à un moment donné, et pour lequel il voulait apporter une précision. Donc ça, c'est très, très enrichissant, et en même temps très dangereux, parce que on ne raconte son histoire que de la manière dont on veut qu'elle soit perçue aussi. Et donc le travail du musicologue, c'est aussi d'aller chercher l'histoire derrière l'histoire qui est racontée par les personnages. Si je parle à Philippe Pascal, et je lui ai parlé souvent, et si je parle à Franck Darcel, je n'ai pas tout à fait la même histoire, notamment sur pourquoi ils se sont séparés, pourquoi en 80 ça split. Et si je leur demande maintenant pourquoi ils refont le groupe et pourquoi ils se reforment, je pense que je n'ai pas la même histoire non plus. Et je reviendrai à la fin sur Marquis de Sade, parce que ça a généré un certain nombre d'acrimonies d'un certain nombre de personnes qui ont joué dans le premier Marquis de Sade, ou le deuxième Marquis de Sade, et qui se sont retrouvés évincés cette fois-ci pour des raisons qui, d'après leurs propos, leur échappent complètement. Alors la question de savoir aussi pourquoi cette étiquette punk a engendré tout un tas de groupes qui avaient une esthétique qui n'était pas cohérente, ils ne jouaient pas tous la même musique, ils n'avaient pas tous les mêmes références, etc. On peut se poser la question, et je l'avais déjà posée en 2013 à Lille, mais de manière plus large, sur le rôle de la presse dans tout ça. Et cette étiquette punk a-t-elle permis aux groupes français de se faire entendre ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une émergence punk, la presse s'en empare. J'ai cru comprendre que Manœuvre serait là cet après-midi, donc je vais en profiter pour parler de lui tant qu'il n'est pas là. Mais si on regarde la manière dont le rock français était perçu dans la presse musicale, on va prendre les deux plus grands qui étaient Best et Rock et Folk à l'époque, hein, qui étaient ceux qui avaient, parce que Extrap a duré très longtemps, ils ont commencé à parler dans Best du rock français par une rubrique qui s'appelait le rock d'ici. Et de la même manière, on voit pas bien, mais c'est Charlie Lécouture, Rock et Folk faisait une série qui s'appelait Hexagone. Puis après Béret Basque, etc. Donc il y avait une rubrique qui s'intéressait à ça. Et on n'était pas tout à fait encore dans l'exposition du rock français, comme ici, où les chances du rock français, titre Best en 1980, en mettant Bijoux. Ce qui est amusant, c'est qu'après, Vincent Palmer est allé travailler chez Rock et Folk. Et évidemment, le groupe qui peut-être, il faudrait encore creuser ça, mais le groupe qui peut-être, qu'on soit d'accord ou pas avec leur esthétique, qu'on soit d'accord ou pas avec la manière dont ils ont envisagé le rock, mais l'émergence de Téléphone et le succès phénoménal de Téléphone a peut-être engendré aussi une reconnaissance du rock français dans l'Hexagone. C'est une question qui se pose. En tout cas, si on regarde un graphique, alors tiens, on ne voit pas bien, mais normalement, il y a une deuxième barre, qui est un peu plus claire, qui est celle de Rock et Folk, qui commence un petit peu avant Best, qui est la courbe de présence des groupes de rock français sur les couvertures de Best et Rock et Folk. Donc là, on voit Best avec une augmentation. Rock et Folk, la courbe commence très très haut, parce qu'en fait, Rock et Folk commence alors que les yéyés ne sont pas morts. Et il va y avoir beaucoup de yéyés, y compris d'ailleurs France Gall en couverture de Rock et Folk, avec une bulle « Suis-je rock ?» Ben non, Cocotte, tu l'es pas, mais bon. Ou Sylvie Vartan, pas France Gall, pardon, Sylvie Vartan. Et Sylvie Vartan, suis-je rock ? Non, t'es juste la femme de Jean-Philippe Smet à ce moment-là. C'est peut-être ce qui fait de toi une rockeuse. Mais si on regarde leur répertoire, ils empruntaient beaucoup à la Motown, ils empruntaient beaucoup au rock américain qu'ils réadaptaient en français. Et puis d'un seul coup, il y a une chute de représentation du rock français à Rock et Folk, on ne voit pas la courbe, je suis désolé, à partir de 68. C'est-à-dire qu'après les événements de 68, ça traîne encore un peu sur Rock et Folk, et d'un seul coup, ils ne parlent plus du tout de rock français. Ou si peu que c'est négligeable. Et la remontée, elle se fait à partir de 75, 76, 77, c'est-à-dire à partir de l'émergence de Téléphone. Téléphone qui fait la couverture quand même de Rock et Folk, on l'a vu, qui fait la couverture de Best. Avant, les couvertures, même Magma n'a pas eu de couverture. C'est-à-dire la tronche de Christian Vander sur Rock et Folk, il faut attendre 2001 pour la voir. Pas avant. On pouvait voir Magma, il y a un article sur Magma, etc. En revanche, on a eu quand même dans Best, on a eu Ange plusieurs fois en couverture dans les années 70. Ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que Christian Decamps écrivait dans une rubrique poésie dans Best. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être des choses qui sont liées à l'une ou à l'autre. J'ai pas de preuves. Je dis les choses, il faudrait aller chercher un peu plus loin, mais c'est vraisemblablement lié. Donc si on regarde tout ça, on voit qu'effectivement, il y a eu une émergence. Et alors, je vais revenir encore une fois sur Best. Justement, Manœuvre n'est pas là, donc en profitons-en. Parce que Best a eu, dans la fin des années 70, une série extrêmement intéressante qui s'appelait Rock A. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein, mais Rock à Lyon, avec évidemment une couverture qui n'est pas de groupe français. Rock à Rennes, avec une couverture qui n'est pas un groupe français. Ensuite, on a Rock à Toulouse, avec une couverture qui n'est toujours pas un groupe français, qui est toujours Clash. Le Rock à Nice, on n'est pas allé à Nice encore, hein. Mais voilà, il y a eu du Rock à Nice, avec Police en couverture. Pareil, Orléans. Vous y êtes allé, je crois. Orléans. Non, pas encore. Orléans. Et l'autre qui est, alors je ne vois pas, il y a la lumière, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Rock à Bordeaux, dont je me resservirai, évidemment, dans un mois. Et évidemment, le Rock à Nantes, ici, qui est dans, dans ce numéro de Best avec une magnifique dessin de Bob Marley, et qui parlait aussi de Marquis de Sade. Mais vous voyez, Rolling Stone, Van Halen, Iggy Pop, etc. Donc là, on est vraiment dans cette série avec des, au-delà du rock d'ici, le rock qui était situé un peu comme on le fait nous dans cette équipe, c'est-à-dire qu'on va dans une ville et on regarde quel est le ferment rock qui est là, avec des plus ou moins têtes d'affiche. Quand ils vont à Rennes, Marquis de Sade est déjà plus ou moins une tête d'affiche. Quand ils vont à Nantes, il y a un groupe qui s'appelle Private Jokes, dont on parle. J'ai renoncé à aller en parler à Nantes parce que c'est pas très oi, c'était plutôt pop. Mais dans ce groupe Private Jokes à Nantes, on avait quand même un monsieur qui joue du clavier qui s'appelle Arnold Turboust, qui va se retrouver clavier après sur le premier album de Marquis de Sade et qui va être le compositeur du premier album à énorme succès de Dao après l'époque d'Arcel, qui est le Pop Satori. Et on a aussi Pierre Corneau. Pierre Corneau qui est à la guitare, et Pierre Corneau, lorsqu'il va se déplacer en Bretagne et aller vers Rennes, il va se retrouver à jouer. Il y avait Pierre Thomas aussi, et Pierre Thomas et Pierre Corneau vont être les deux membres qui vont rejoindre Philippe Pascal et Anzia pour faire Marxberg. Donc ce ferment existe aussi, y compris dans Nantes. Donc finalement, j'ai parlé de Private Jokes. Et évidemment, d'autres presses aussi, même s'ils étaient prêts à bidonner un petit peu les articles, qui était le fameux « Les jeunes gens modernes aiment leur maman ». Alors je ne sais plus lequel, mais il y en a un, c'est pas sa vraie maman parce qu'elle n'a pas voulu y aller. Donc ils ont mis une autre maman qui ressemblait un peu à une maman, et puis on dit etc. Avec évidemment la méthode actuelle. Et évidemment la rubrique aussi importante qui a, je crois, généré ce ferment de rock français dans cette première époque. Hein, parce qu'après, je crois, enfin François pourra peut-être m'en parler, même si tout est relatif, évidemment, mais je crois que l'époque des Béru, il y a eu plus de facilité pour atteindre ces magazines-là que peut-être ne l'ont eu ces groupes à l'époque. On peut en discuter. On peut en discuter. Et évidemment, la rubrique qui va générer un certain nombre de connaissances, c'est encore une rubrique, c'est Jean-Éric Perrin avec Frenchy Butchik, où là, il va parler absolument de tout le monde, et parfois évoquer même des groupes qui n'ont pas encore enregistré et qui, au bout du compte, n'enregistreront même pas. Voilà. Alors après, on a... une scène qui, si on prend les Stinky Toys, Ellie May DeRose, Jacques No va faire un peu de la musique synthétiseur, Ellie May DeRose va faire un album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bomb Bomb, mais qui est très très loin quand même du punk, elle va faire d'autres trucs aussi, je crois qu'elle va faire un peu de cinéma, des gens vont se tourner vers autre chose, le groupe qui n'est pas punk mais rock, Téléphone, va finir par exploser au milieu des années 80, et les groupes comme Marquis de Sade, tout ça disparaissent petit à petit, et que la survivance de ces groupes au-delà de la période post-punk va être compliquée, sans doute aussi parce que le marché n'est pas là pour, même Star Shooter, lorsqu'ils signent chez CBS, ne vendent pas, et puis on leur dit bah, merci, au revoir, et donc Kent a été clair, il m'a dit de manière très très claire, si le disque chez CBS avait marché, Star Shooter aurait continué. Donc on s'est arrêté parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Bijoux, c'est pareil, quoique Bijoux revient maintenant, mais sous le nom de Bijoux Doga, parce qu'en fait, sur le trio, il n'y en a plus qu'un. Et la renaissance, il y a, je dirais, une dizaine d'années, de toute cette génération dont on parle, nous, dans cette équipe-là, qui est venue aussi par ce documentaire qui s'appelait « Les jeunes gens modernes », avec le disque, où on retrouve tout un tas de groupes de cette époque-là. Alors, je fais vraiment un panorama et un bilan de ce que j'ai pu dire, réfléchir et les ouvertures pour l'année prochaine. Mais lorsqu'on voit certaines reformations, j'ai demandé l'autorisation aux gens avant de le faire, parce qu'il y a leur nom, c'est un petit peu ce qu'on trouve sur Facebook concernant la reformation de Marquis de Sade. Des gens qui sont évidemment enchantés, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on ne les avait pas vus, etc. Même moi, j'ai fait le déplacement de Dijon à Rennes pour aller voir ce concert qui devait être unique. Alors que j'aurais attendu un petit peu, bah, j'aurais eu beaucoup moins de chemin pour aller à Lyon et je serais venu de Fourvière. Mais voilà, on a un monsieur qui s'appelle Patrick Babin. Je lui ai demandé l'autorisation, donc il n'y aura pas de souci avec là-dessus. Il assume ce qu'il écrit sur ce qu'il voit. Et notamment celui-ci, ça n'a rien à voir avec tout ça, il n'y a pas, etc. Moi, je n'y vois aucun intérêt, ça me fait l'effet d'un cover band. Attention, j'attaque et allume personne ici, c'est très bien interprété, plutôt fidèle, et ça joue super, mais où est l'émotion ? La peau sur la table, alors bon, il y en a qui parlent de Céline en disant qu'il faudrait interdire Céline, je ne sais pas quoi, bref. La peau sur la table, c'est Brel, etc. Lui, il dit qu'il a vu un truc, enfin, je veux dire, Philippe Pascal n'est plus du tout dans cette peau sur la table qu'il mettait au début des années 80, et même dans Marxberg. Et que tout ça, ça sent le fric, quelque part. J'ai même eu une fois une langue médisante qui m'a dit, de toute façon, Darcel, son groupe République, ne marchait pas, il avait tout intérêt à reformer Marquis de Sade pour gagner un peu de pognon. Donc on peut toujours se poser des questions sur les reformations, sur pourquoi. Les Sex Pistols, quand ils sont revenus faire une tournée, leur slogan, c'était « on est juste là pour le lucre ». Donc les mecs, on est comme au début, on est là pour le pognon. Et c'était au moins honnête. Et alors, les acrimonies, voilà Philippe Delacroix-Herpin, qui était un des deux saxophonistes de Marquis de Sade. Le premier, c'était Daniel Pabeuf, et Lacroix-Herpin les a rejoints après, ou c'est peut-être l'inverse, mais quoi qu'ils en soient, ils étaient deux. Je dirais dans le livre l'importance qu'a eu ce duo de saxophones dans les transformations presque free-rock qu'on a en concert de certains morceaux de Marquis de Sade. Mais il n'a pas été contacté, Herpin. On lui a dit rien du tout. Et il en nourrit une certaine acrimonie, même s'il s'en défend. C'est à tel point que quelqu'un lui dit « Votre avis ne compte pas, la rancune n'a pas de place ». Mais voilà, on est dans ces questionnements sur pourquoi se reformer aujourd'hui, pourquoi refaire ce qui a été fait, et parfois bien fait, pourquoi revenir. La question que je me pose aussi, moi, avec mon petit groupe qui n'a pas eu de succès à l'époque et qui n'en aura pas plus maintenant, mais qui, au bout de 35 ans, j'ai dit « Pourquoi remonter sur scène avec le mec qui était là, avec qui j'ai gardé des contacts ?» Et pourquoi refaire des morceaux il y a 35 ans aujourd'hui ? Ça fait partie des questionnements que je peux me poser aussi dans l'année à venir sur tout ça. Et qu'on pourrait poser d'ailleurs à des gens comme Strychnine. Pourquoi revenir aujourd'hui avec une formation différente ? Pourquoi refaire des concerts alors que le groupe a fait, je crois, un album finalement, ou peut-être deux. Deux, hein. Dans la première... Voilà. Moi, je vais parler que du premier, mais qui est déjà pratiquement introuvable. Hein, où il faut l'acheter à des prix phénoménaux sur eBay, etc. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais dire sur le bilan, et je voulais terminer avec ce film. Je ne sais pas s'il a déjà été diffusé dans PIN, mais qui est assez intéressant parce qu'on y voit tout le monde. Il s'appelle « La Brune et moi ». Et je vais terminer avec le générique de ce film-là, si vous permettez. Voilà. Merci. On les laisse parler.
Alors que la dernière des guerres, dans l'air, le dernier enfant, qu'est-il encore, c'est une guerre. Si le sang se finit, ça ne lui fait qu'un étage ici, la roue qui tourne dans la vie. Sans se finit, ça ne lui fait qu'un étage ici, la roue qui tourne dans la vie. Sans se finit,
voilà, donc on pourrait, je ne sais pas, c'est une idée que je lance, envisager de... Je ne sais pas si le réalisateur est toujours de ce monde, ou s'il fait partie des survivants ou pas, mais ça serait intéressant parce que c'est un véritable documentaire avec une liste des groupes qui étaient dans l'underground punk, post-punk de l'époque. Je crois que le film dure une heure. Envisager de faire une séance où on pourrait projeter ce film, peut-être en présence du réalisateur ou de certains acteurs ici pour leur souvenir, mais voilà. Donc... Pour conclure, une année où j'ai tenté de voir sur les groupes un petit peu les têtes d'affiche, si vous voulez, des certaines villes, et je continuerai à ça, mais aussi finalement le soulèvement de beaucoup, beaucoup plus d'interrogations que je n'apportais de réponses. Et donc, je crois qu'il y a encore du travail. Merci.
Ben, merci beaucoup, Philippe. Juste, il y avait cette question effectivement de l'émergence et de l'origine du mouvement punk qui est toujours un élément qui est fondamental dans notre processus de recherche, et la question de la reformation aussi qui était particulièrement intéressante.